pour entrer dans mon propos, je dirais que l'enquête, au fond, est le quotidien du chercheur, en particulier dans le domaine historiographique, au point que, comme vous le savez, elle fonde depuis Hérodote l'étymologie même du terme histoire, tout à la fois enquête et récit de cette même enquête. Mais ce récit procède habituellement d'une volonté d'aboutissement logique, c'est souhaitable, et ce, au terme de pratiques et de méthodes qui permettent de gommer en principe les erreurs préalables de son énonciation et aussi les tâtonnements de la démarche entreprise. Toutes ces scories que l'on rejette précisément du résultat final ou que l'on s'efforce parfois de camoufler avec plus ou moins de talent. Pour l'illustrer, la communication que j'entame n'est donc pas particulièrement analytique, je dirais, mais elle s'inscrit plutôt dans le témoignage, donc dans le témoignage de l'enquête que j'ai menée à la recherche de ce fameux Valentin Feldman, dont je ne vais pas tarder à vous évoquer l'existence. Mon propos s'attachera en conséquence moins à la théorisation d'une démarche qu'à la révélation des pratiques qui la sous-tendent, sans en omettre d'ailleurs les obstacles ou les défaillances. Une remarque préalable pour dire que l'histoire que j'ai choisi de vous raconter n'est même pas la plus spectaculaire de celles que j'aurais pu vous proposer. Certes, elle est assurément la plus intime, comme vous le verrez. Mais en effet, il y a quelques années, il m'a été donné de me retrouver en train de creuser pelle à la main dans un coin de terre belge en une authentique chasse au trésor à la recherche du manuscrit du dernier roman perdu de Paul Nizan, La soirée à Somosierra. Mais cet épisode quelque peu stupéfiant a déjà en fait fait l'objet d'une intervention lors d'un colloque organisé en 2004 par Pierre Bayard sur ces fameux livres, vous connaissez, que l'on n'a jamais lus, mais dont il faut quand même parler. Donc j'aurais, si ça peut intéresser quelqu'un, j'aurai l'occasion peut-être de raconter cet épisode, mais en dehors de la présente communication. L'expérience que je veux évoquer devant vous aujourd'hui, à présent, tient moins de la quête d'un objet que de celle d'un homme. Valentin Feldman, philosophe, juif, communiste, résistant et fusillé en juillet 1942 au Mont Valérien. Voici donc mon propos, comment redécouvrir celui que j'ai qualifié de, vous le voyez derrière moi, de locuteur inconnu d'un mot célèbre. Alors j'étais très content de ma formule parce que je pensais qu'elle allait attirer votre attention. Et puis Christian Schellbourg m'a dit que finalement le mot célèbre ne l'était pas. Donc il faut donc que je modifie le titre de mon intervention en disant que c'est le locuteur inconnu d'un mot. Après tout, ça peut se concevoir et c'est déjà quelque chose qui n'est pas anodin. C'est déjà une première base, une petite base. C'est quelque chose à quoi je tiens. Quoi qu'il en soit, il s'agissait donc de partir à la recherche de quelqu'un qui avait été à un moment donné un peu connu, ça c'est tout à fait le cas, avant, et c'est non moins vrai, de sortir durablement, mais pas tout à fait, de la mémoire collective. Comment en écrire la vie et surtout quelle vie raconter parmi celles dont on dispose. La question peut paraître absurde, mais elle ne l'est pas tant que ça. Pour ce faire, mon propos se structurera en trois temps. Le premier s'efforcera d'établir le relevé des indices, puisque nous sommes dans une enquête, les indices laissés par Valentin Feldman, notamment dans l'espace public. C'est l'étape initiale où l'historien, comme le romancier ailleurs, se mue de façon parfois empirique en chercheur de traces. Le deuxième temps visera au recensement des préalables qui, dans ma démarche singulière, m'ont conduit plus précisément à établir la chronologie, non pas la biographie, mais la chronologie de l'existence du même Feldman. Et comme vous le voyez déjà à l'écran, j'appuierai mon propos sur un certain nombre d'illustrations, puisque c'est bien beau de parler de quelqu'un, mais autant quand même donner à voir à quoi il peut ressembler. En ce qui concerne donc le troisième temps, celui-ci est plus inattendu, puisqu'il posera à travers mon enquête la question des choix auxquels se voit confronté l'enquêteur, et de là l'idée que la quête des faits historiques ne se limite pas à une démarche mécaniste et cumulative, mais interpelle ce dernier sur le plan de l'épistémologie quant à la manière la plus adéquate, mais laquelle, d'écrire l'histoire de son sujet. Je commence donc par les traces. Que reste-t-il de Valentin Feldman? Et pour ce faire, je voudrais commencer donc par les faits et cette curieuse histoire de mots, puisque ce que l'on retient de Valentin Feldman, plus qu'un homme, c'est moins une présence physique, pas même d'ailleurs une image conservée de lui, bien qu'il en, il en existe naturellement, mais d'abord une phrase, c'est-à-dire en l'espèce 8 mots, « Imbécile, c'est pour vous que je meurs ». En quelque sorte, si j'ose dire, c'est la chair qui s'est faite verbe. Et pour le reste, d'après les maigres ressources disponibles, et il y en a, mais elles sont à la fois peu nombreuses et peu pas toujours facilement accessibles pour de simples questions de réédition, parfois de textes. Ces ressources disponibles, qui essentiellement tournent autour des témoignages de ceux qui avaient connu le sujet en question, Valentin Feldman, eh bien, on peut dire que on se souvenait, la mémoire collective se souvenait de manière très succincte que la formule en question avait été prononcée par un résistant condamné au moment d'être fusillé par les Allemands en 1942. Ces mêmes sources identifiaient son nom, son état civil, si je puis dire, Valentin Feldman, et dans les quelques rares éléments d'état civil, justement, il se disait qu'il était juif, ce que son patronyme pouvait naturellement suggérer. On savait qu'il avait été vaguement philosophe, mais en quoi ? Et aussi qu'il avait été communiste, et il y avait une corrélation tout à fait logique entre son engagement, son action résistante et sa fin. Son nom apparaissait dans divers ouvrages consacrés à la résistance, à commencer par un que vous avez peut-être eu entre les mains, en tout cas l'un des tomes, puisqu'il y en a 6, de la somme d'Alain Guérin sur la résistance, qui était initialement paru dans les années 70, mais qui était régulièrement réédité depuis, notamment dans la collection Bouquins, il y a quelques années de cela. Et dans d'autres références, comme l'histoire de la résistance d'Henri Noguère, enfin bon, quelque chose qui était une référence assez régulière. Je ne dis pas fréquente, mais assez régulière. Science des plaques et des inscriptions publiques, l'odonymie pouvait par ailleurs venir en aide aux chercheurs comme aux simples passants, dans la mesure où on trouvait une rue Valentin Feldman à Dieppe, voie dans laquelle figurait d'ailleurs une école maternelle et élémentaire éponyme. C'est donc qu'il avait vécu dans cette ville. Son nom revenait enfin et surtout sur plusieurs plaques commémoratives à Étampes, Rouen et surtout Paris, que ce soit au Musée de l'Homme, à la Sorbonne et même dans l'interminable liste, il y en a en réalité plusieurs sur plusieurs plaques, des écrivains morts à la guerre dont les patronymes sont reproduits, comme vous le savez, sous les voûtes du Panthéon. Cela pose la question finalement de l'émergence d'un mythe, un mythe lié à cette mort exemplaire. Et ce que l'on peut dire, c'est que la dernière phrase de Valentin Feldman a beaucoup marqué ses contemporains. Et c'est toute la difficulté pour un enquêteur, un historien, que de fonder un récit historiographique qui se veut toutefois, enfin qui se voit, me semble-t-il par essence fondé sur des faits, que de reposer sur une expression en quelque sorte mythifiée. Et là, il fallait évidemment commencer par la prise en compte donc de ces écrits, tout en faisant, enfin en tentant de faire la part des choses, ce qui n'était pas évident. Et cette formule a interpellé les contemporains de Feldman, des gens qu'il avait connus comme d'autres qui ne l'avaient pas côtoyé, à commencer par Jean-Paul Sartre en 1946 dans ses Cahiers pour une morale, qui seront en réalité publiés en 1983. Et Sartre consacre une page à la formule qu'à l'individu d'ailleurs, sur ce fameux « imbécile, c'est pour vous que je meurs ». En résumant, il considère que cette phrase exprime un don total de soi, l'acceptation d'un sacrifice, où la victime sait mieux que son bourreau la finalité de l'histoire. Sous-entendu, je meurs pour que même vous qui me fusillez, vous viviez plus tard dans un monde que je sais être meilleur que celui que vous m'imposez et que vous m'obligez à combattre. La formule sera reprise par beaucoup d'autres clercs, écrivains, intellectuels, parmi lesquels on peut relever les noms de Louis Aragon, José Corti, Maurice Schumann, Jean Marcenac, Louis Parot, Claude Roy, Pierre Segers ou encore Vercors, certains l'ayant connu d'autres noms. Sans surprise, eu égard à l'engagement politique de Feldman, le même épisode était repris par le Parti communiste d'après-guerre qui, au nom du mythe bien connu de ses 75 000 fusillés, inscrivait donc le nom de Feldman dans la longue liste de ses intellectuels morts à la guerre, les grandes figures du parti, le martyrologe, et si on s'en tient aux intellectuels, aux côtés de gens comme Jacques Decourt, Georges Pulitzer évidemment, ou encore Gabriel Péri. Et loin de cette liste, si je puis dire, il y avait aussi des expressions publiques et le numéro un du parti, Maurice Thorez en personne, de même qu'un autre dirigeant communiste, Charles Tillon, devait eux aussi reprendre publiquement les mots du philosophe disparu. C'est devenu une sorte de formule incantatoire, si je puis dire, et une formule qui, en quelque sorte, empêchait d'avoir à s'interroger sur le reste. D'où cette contrepartie d'une vie annihilée en quelque sorte. Et on l'aura compris, cette première difficulté donc du chercheur dans l'appréhension de Valentin Feldman, c'est qu'en fait il n'existe tout simplement pas. Vous avez 8 mots prononcés au moment de mourir qui ont suffi pour effacer les 33 ans qui avaient précédé. On a une vie qui est résumée en fait à une phrase, mais la phrase a eu un effet de suppression de tout le reste. Et si, par exemple, puisque je viens de l'évoquer, Sartre évoquait donc lui-même la portée métaphysique des derniers instants de Feldman, eh bien, par exemple, il se gardait bien de préciser qu'il l'avait personnellement connu, et pour cause, comme vous le verrez un petit peu plus loin. Quant à Simone de Beauvoir, de son côté, qui rappelait dans ses mémoires que c'était le sort du même Feldman, de Politzer et de quelques autres, qui l'avait empêché de signer la fameuse pétition réclamant la clémence pour Robert Brasillach au début de l'année 45, elle non plus n'en disait pas plus. Oui, alors elle mentionne les noms, elle dit oui, il y avait Feldman, Politzer, mais comment s'était-il connu? À quel moment, sur quoi avait-il échangé? On ne savait évidemment rien de tout cela. Et Valentin Feldman, en tant qu'individu vivant, avait en l'occurrence complètement disparu, chose que l'on retrouve dans la très grande majorité finalement des autres textes que l'on possède. Et c'est ce qui, par un paradoxe qui n'est qu'apparent, autorisait par contraste toutes les interprétations, voire les recréations. Deux exemples pour s'en convaincre. Une assez attendue, il faut bien le reconnaître, sur le plan politique. Sur le plan politique, on avait effectivement Valentin Feldman qui était devenu un martyr du PCF, et ce même martyr du PCF fondait la légitimité idéologique des communistes français dans les débuts de la guerre froide, donc une période que par définition le défunt n'avait pas pu connaître, mais on allait brandir son nom, notamment je crois au moment de la question de la CED en 1954, pour dire que non, il ne fallait pas relancer le militarisme allemand, et que les martyrs étaient là pour le démontrer, et donc parmi les martyrs, Valentin Feldman. Quelque chose bon, effectivement, qui était là une instrumentalisation tout à fait politique. Mais pas uniquement. Un autre exemple très intéressant, c'est sur le plan artistique. Et là, on délaisse plus volontiers le fond pour la forme, avec un exemple assez étonnant qui remonte à 1988, lorsque Jean-Luc Godard a consacré à Valentin Feldman le sujet d'un court-métrage qui s'intitule « Le dernier mot ». Et qui, au passage, est son seul et unique film en costume, si j'ose dire, jamais tourné. Ce dernier mot, et la figure de Feldman revient à la fois dans la version écrite et vidéo des histoires du cinéma. C'est un personnage dont la fin a marqué Godard. Sauf que dans le cadre du dernier mot, il y faisait mourir son héros en 1943 et non 1942, ainsi que dans des circonstances procédant non de la restitution des faits historiques, mais de la licence du créateur, hein, au sens le plus exact du terme. Et dans les deux cas, idéologique ou artistique, il s'agissait de créer le Valentin Feldman conforme à l'usage que l'on souhaitait en faire. Et là, on avait quelque chose qui s'éloignait terriblement, bien sûr, de l'existence réelle du défunt. J'en viens du coup à ma deuxième partie avec le processus sur, alors c'est pas la fabrique de l'histoire, mais c'est la fabrique de la biographie en quelque sorte. Et ce processus, qui est un processus assez long en l'espèce, il aurait pu être beaucoup plus court, mais il a procédé probablement d'erreurs de ma part et puis aussi d'obstacles ainsi que vous le verrez. C'est quelque chose qui est né donc d'un hasard, d'une recherche de thèse, et ce travail, je peux dire que ce travail donc qui allait devenir la biographie de Valentin Feldman n'est pas allé de soi, loin d'une révélation subite, et ce qui d'ailleurs peut toujours arriver lorsque l'on fait de la recherche. Il s'est autant nourri donc de hasard que de préalable, et aussi de tout un tas de circonvolutions et dont je vais m'efforcer de rappeler les principaux jalons. Comme cela a été dit dans la présentation, j'ai d'abord travaillé au tournant des années 90 à 2000 à l'écriture d'une thèse d'histoire contemporaine, donc sous la direction de mon maître et ami Pascal Horry, et sur ce qui a été rappelé, c'est-à-dire les intellectuels de la drôle de guerre dans une période qui est une sorte d'angle mort entre deux périodes de fort engagement qui étaient les années 30 d'une part et l'occupation de l'autre. Et je voulais savoir si durant ces un peu plus de 8 mois d'inaction militaire, est-ce qu'il y avait également une inaction intellectuelle. Et pour ce faire, l'une de mes méthodes les plus simples consistait à me plonger dans les biographies d'écrivains disponibles, les ouvrages de référence sur un tel et un tel. Et il s'agissait d'en retirer ce segment d'activité. C'est assez amusant d'ailleurs parce que de façon tout à fait bergsonienne, s'il durait toujours un peu plus de 8 mois dans la durée effective du temps écoulé, n'en prenait pas moins des formes plus ou moins développées ou extensibles dans le récit des vies des individus concernés. C'est-à-dire que on n'en parlait tout simplement pas dans certains ouvrages. Et puis, si on allait du côté de Giraudoux, qui avait été le commissaire général à l'information en 39, ou bien de gens pour qui la drôle de guerre avait eu un impact particulier, comme Sartre par exemple, Nizan ou même Saint-Exupéry, là en revanche on en trouvait de longs passages. Et dans cette typologie, ce recensement très, très banal, j'ai eu en main la biographie donc de Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme, rédigée par sa petite-fille Françoise Bache. Et c'est là que j'ai découvert plusieurs mentions, plusieurs citations d'un journal de guerre inédit, rédigé par l'un de ses disciples, l'un des disciples de Bache, donc un diariste méconnu qui se nommait Valentin Feldman. Si je connaissais déjà le nom de ce dernier, pour les raisons que je viens de vous exposer, alors j'ignorais complètement l'existence de son écrit. J'ai donc adressé à Françoise Bache un courrier circonstancié, lui expliquant le sens de ma démarche et faisant état de ma thèse, de manière à savoir si je pouvais entrer en relation avec la personne détentrice du journal. Et c'est donc à Françoise Bache, je n'oublie pas que c'est à elle que je dois d'avoir pu rencontrer Léone Tessandier-Feldman, fille de Valentin Feldman, qu'elle connaissait personnellement. Et je voudrais d'ailleurs insister sur le fait que l'enquête, on insiste beaucoup sur son côté structuré et méthodique, mais elle s'accompagne toujours de ce genre d'imprévus et de quelques autres, comme vous le verrez. Par comparaison, je fais une petite parenthèse, puisque j'étais dans la recherche de textes, voire de témoignages inédits à une période où je pouvais encore en recueillir. Par comparaison, une recherche d'adresse sur Minitel, vous vous souvenez du fameux Minitel, m'a permis de correspondre à la même époque avec Julien Gracq, alors qu'une lettre égarée m'empêcha, à mon grand regret, d'entrer en relation avec Claude Simon. Donc les hasards de la recherche sont parfois récompensés, d'autres moments ne le sont pas, mais là j'avais atteint en tout cas un premier objectif qui était celui d'entrer en contact avec la personne qui avait communiqué des extraits de ce journal inédit qui m'intéressait sur la drôle de guerre. Ce qui m'amène à l'idée donc de ce moyen, avec l'idée d'un projet éditorial développé, en ce sens que ma rencontre avec Léone Tessandier-Feldman me permit donc d'intégrer, d'entrer dans l'univers donc familial de Valentin Feldman. Et sensible à ma requête, qui est forcément intéressée lorsque l'on peut disposer d'un inédit en recherche, c'est quand même quelque chose qui est, me semble-t-il, le Saint Graal, elle a accepté à l'époque de me communiquer environ 80 pages du journal de guerre, donc rédigé par son père, de janvier 1940 jusqu'à décembre 1941, donc les deux premières années, enfin pas les deux premières, il manquait 39, mais deux années complètes de guerre, et elle m'avait transmis 80 pages sur la période qui m'intéressait, autrement dit le premier semestre de 1940. Et il me fut donc possible d'en intégrer in extremis des fragments significatifs à la thèse donc que j'ai soutenue en mai 2005 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En marge de la publication réduite de cette même thèse en 2008, j'avais entrepris de convaincre Léone de publier le journal de son père, qui m'apparaissait comme un témoignage inédit de valeur, surtout quand elle m'avait fait lire toute la partie relatant l'occupation au cours de l'année 1941, donc principalement à Dieppe, d'où la fameuse rue, où son père enseignait la philosophie dans sa dernière année d'exercice en 40-41, au tout début donc de l'occupation. Je précise que Léon, à l'origine, était très réticente à ce projet, comme on le voit souvent lorsque l'on a affaire à des gens qui détiennent des archives. C'est pas simple de dire, bah tiens, votre archive m'intéresse, publions-la. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'autant plus qu'elle-même avait tenté de le faire une dizaine d'années auparavant, puis ça n'avait pas abouti. Et un peu échaudé par ce premier échec, il m'avait fallu entreprendre de la convaincre de l'intérêt même du journal, puisque l'échec éditorial préalable avait fini par la convaincre elle-même que le journal finalement n'avait peut-être pas tant d'intérêt que cela. La grande chance que nous avons eue a été de rencontrer le bon éditeur, Farago, les éditions Farago de Tours, les défuntes éditions Farago de Tours, hélas, emmenées par un couple d'éditeurs extrêmement chaleureux, courageux, que j'ai plaisir à saluer ici, Elisabeth et Philippe Boyer, et dont les publications, le travail avait attiré mon attention, puisqu'ils avaient commencé à rééditer, republier l'œuvre de Jacques Decour. Il y a eu de cela une dizaine d'années, on a recommencé à parler de Jacques Decour, parce que ses textes étaient republiés avec bonheur, et il y a eu un moment Jacques Decour, et voyant cet intérêt pour Decour, je m'étais dit que c'était probablement la meilleure maison d'édition pour publier le journal de Feldman. Et du coup, ce choix a permis la réalisation du projet d'édition. Je signale qu'il n'avait rien d'anodin, car la très faible notoriété, hein, j'en conviens bien évidemment, de Feldman, n'intéressait, ne pouvait intéresser de grands éditeurs. On parlait tout à l'heure d'une démarche financière. Bon, ben là, forcément, c'est pas que sur Netflix. Hein, les éditeurs également vivent des tirages, et donc il faut quand même arriver à vendre ce qui peut l'être. Mais l'intérêt des petits éditeurs, enfin, je pense que je n'apprends rien à personne, c'est de pouvoir effectivement attirer sur des auteurs, soit que l'on fait découvrir ou que l'on redécouvre, et ce qui pourrait être le cas pour Valentin Feldman. Cette disponibilité a permis donc toute la suite. La suite, ce fut en 2006, l'apparition donc du journal de guerre de Valentin Feldman, dont je vous montrerai tout à l'heure la couverture, qui reçut un accueil critique limité mais chaleureux de la part de périodiques comme Le Monde des Livres, l'Obs ou encore le Matricule des Anges. Des commentaires variés écrits ici ou là, il ressortait que l'on redécouvrait un jeune intellectuel français talentueux dont l'écrit apportait un regard neuf et incisif sur la drôle de guerre, la défaite de mai juin 40 et les débuts de l'occupation. Signe de la réalité de cette redécouverte, l'écrit de Valentin Feldman se voyait intégré à de nouvelles analyses historiographiques ou autres visant au récit de la guerre, et je pense notamment à l'essai de la sociologue Fabienne Federini, « Écrire ou combattre, des intellectuels prennent les armes », paru à la découverte en 2006. C'est plus tard, c'était pas en 2006 puisque c'est l'année du journal, je me suis trompé sur la date, mais c'est paru quelques années plus tard. Le nom de Feldman par ailleurs se diffusait aussi sur internet, y compris, et ça c'est assez intéressant parce qu'on ne s'attendait pas du tout, en langues étrangères. Donc des références effectivement à ce journal. Alors l'outil, et là je vais plus particulièrement utiliser des référentiels iconographiques, on va voir un petit peu d'images, c'était l'établissement d'une chronologie, c'est-à-dire que la biographie devait quand même se fonder sur un récit linéaire, chronologique, et dont il avait fallu s'emparer, qu'il avait fallu forger, en l'occurrence pour le journal de guerre lui-même. Il avait fallu partir à la recherche d'une quantité d'informations inédites, destinées à fournir les nombreuses notes de bas de page, par exemple, à propos des lieux, des gens, et sur un modèle éditorial que je m'étais choisi, qui était celui des éditions critiques assurées par Claire Polan. Et pour cela, l'apport des archives personnelles de Léon Tessandier-Feldman s'était révélé tout à fait déterminant. Mais il fut enrichi naturellement par d'autres sources, archives, notamment les archives nationales, mais quantité d'autres, ainsi que par diverses ressources accessibles sur Internet ou ailleurs, de manière à fournir ce qui devait l'être en termes d'explications et permettre au lecteur de ne pas voir uniquement le corps du texte, mais également les éléments qui le rendaient signifiant. De là donc les notes, mais également donc l'établissement de l'indispensable outil de travail que pouvait représenter une chronologie succincte, que nous avons d'ailleurs fait figurer en fin de volume, et qui peut illustrer les grandes lignes donc de la vie de Valentin Feldman, que l'on peut restituer en 8 étapes. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les dates, mais quelques grandes étapes. Et là, on va avoir un petit peu d'images. Alors, un petit peu plus tard d'ailleurs, parce qu'il me manque les photos les moins accessibles sont celles des débuts. Première étape, il est né donc en 1909 de parents juifs aisés à Saint-Pétersbourg, mais d'origine ukrainienne. Fils unique, son père meurt en 1916 dans le torpillage en mer Noire de son navire par un U-boat, et il survit à la mer avec sa mère aux horreurs de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile russe. Il émigre en France avec sa mère en 1922, vit misérablement à Paris, mais étudie dans son lycée de rattachement qui est Henri IV. Il y côtoie notamment Maurice Schumann, et par-delà la divergence de leurs engagements futurs, ce dernier se souviendra toujours de lui. Feldman décroche la première place au concours général de philosophie en 1927, et parmi les jurés, on retrouve le même Schumann, mais aussi Claude Jamet, le futur Julien Gracq, ainsi que cet élève du lycée d'Albi au patronyme tout à fait improbable, un certain Georges Pompidou. Troisième étape, Feldman s'inscrit ensuite à la Sorbonne. Il fréquente la philosophe Simone Veil. On a une photo où on les voit tous les deux. Il fait le mur pour assister aux cours d'Alain Ancagne, comme beaucoup d'autres. Il devient le disciple favori de Victor Bach, qui l'oriente vers l'esthétique. Et il est naturalisé français au début de 1931, échoue pour la première fois à l'agrégation de philosophie l'année suivante, et à cause d'une méconnaissance totale du latin et du grec, alors qu'il survole les écrits. Et le problème, c'est que les notes en latin et en grec, à l'époque, sont éliminatoires. Donc, il a beau être brillant à l'écrit, il est à chaque fois... il ne passe pas le seuil de l'oral. Il essaye une quantité de fois. Et cette succession d'échecs au concours lui permet de côtoyer la fine fleur de la philosophie française des années 30, à la fois déjà active ou en devenir. Sartre, Beauvoir, Lévi-Strauss, Paul Hilser, Jean Kélévitch, les frères Vernant et d'autres encore. Il est alors rédacteur à la revue de synthèse d'Henri Behr, et il se lie aussi avec Gaston Bachelard, avec lequel il entretient une correspondance, mais malheureusement qui n'est pas accessible. Il y a des problèmes avec la succession Bachelard depuis des années. Et également l'éditeur José Corti. Quatrième temps, plus intime, marié au printemps 1933 avec Marianne dite Yann Comiti, dont l'un des cousins sera l'un des futurs ministres du général de Gaulle. Il a une fille, Léone, l'année suivante, donc mon interlocutrice. Il soutient activement la cause antifasciste après le 6 février 1934, le Front populaire et ensuite l'Espagne républicaine. Cinquième temps, il fait paraître son seul et unique essai, l'esthétique française contemporaine. Alors, je l'ai mal positionné, mais là, on peut la voir peut-être un petit peu plus tard. Voilà, la fameuse collection de la nouvelle encyclopédie philosophique chez Alcan. C'est en 1936, et la même année, il traduit le grand roman soviétique de Nicolas Ostrovski, « Et l'acier fut trempé », qui paraîtra aux ESI l'année suivante, en 1937. Année où il adhère au Parti communiste français après avoir été longtemps militant socialiste et écrit dans la revue sympathisante Clarté, sympathisante, antifasciste, pro-républicaine espagnole, Clarté. Après Étampes, Lens, où il succède poste pour poste à Claude Lévi-Strauss en partance pour le Brésil, et l'affaire, il enseigne la philosophie donc à Fécamp de 1937 à 1939. Dans un lycée, on ne peut plus républicain, de cette allure très art déco des années 30. Et il décroche enfin, pourrait-on dire, l'agrégation de philosophie à l'été 1939. Bouleversé par le pacte germano-soviétique du mois d'août de la même année, il décide de s'engager volontaire dans l'armée française malgré une maladie de cœur. Stationné à Rethel dans l'Aisne, c'est là qu'il entame la rédaction de son journal de guerre. Là, c'est le texte d'origine avec cette formule initiale, l'incipit. Nous avons perdu avec la paix toutes nos raisons de faire la guerre. Restent les raisons générales. L'histoire de la guerre, de toutes les guerres, en a fait l'épreuve plus d'une fois. Et voilà la couverture donc du journal de guerre de Valentin Feldman, avec une photo de lui beaucoup plus jeune que la période à laquelle évidemment il l'écrit. Là, il a une vingtaine d'années donc on est plusieurs années, oui bien sûr, avant les événements relatés. Il participe à la campagne de France. Il frôle la mort lors d'un bombardement aérien à Toussy dans l'Yonne. avec d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant. J'ai retrouvé une photo sur Internet du bombardement de cette petite ville de Lyon. Et la photo correspond en quelque sorte au journal. Donc je me permets de faire une brève parenthèse en vous lisant un extrait du journal. On est le 15 juin, le bombardement vient d'avoir lieu. Et voilà ce qu'il écrit. Passer l'après-midi à aider l'extinction des incendies, à essayer de déterrer cadavres et blessés de dessous les décombres. Dans le pâté que nous avons entamé, 6 à 7 maisons, pas plus, plus de 50 personnes étaient ensevelies. Et sur la place couverte de débris et de couronnes funèbres, dominant, impassible, le cadavre d'un cheval, le buste de Pierre Larousse, natif de Toucy. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez le buste en question à l'extrémité gauche du cliché. On voit ce buste qui est situé, alors je peux essayer de vous le montrer si j'ai la souris. Bon, c'est ce que vous avez avec la colonne blanche tout à fait à gauche, et on distingue en contre-jour cette sorte de buste républicain, donc cité dans son journal par Valentin Feldman. J'arrive à la... Alors, il ressort donc indemne des opérations militaires et décoré de la Croix de guerre, et on en arrive évidemment à la période terminale qui est celle de l'occupation et de sa fin. Il est victime du premier statut des Juifs d'octobre 40, enseignant en sursis à Dieppe, Seine inférieure, où il compte parmi ses élèves le futur journaliste et essayiste Pierre Billard, futur fondateur du Point. Il s'engage dans la résistance active dès cette époque, c'est quelqu'un qui entre précocement en résistance, et... au printemps 1941, on le charge, le PCF clandestin, le PCF le charge de publier un journal résistant, qui est celui de la région de Dieppe, l'Avenir Normand clandestin. Et il est chassé de l'enseignement par le second statut des Juifs de juin 1941, et à la suite de quoi il gagne Rouen, où il entre en clandestinité à l'automne de cette même année. Huitième et dernière étape, il est arrêté en février 1942. Donc là, on a une photo de l'identité policière, voilà, tirée des archives départementales de Seine-Maritime, où on le voit photographié devant un drap blanc qui permet de faire le fond uniforme sur l'identité judiciaire, arrêté comme terroriste après un sabotage dans une usine de la périphérie rouennaise. Il est détenu et torturé à la prison Bonne Nouvelle de Rouen avant d'être transféré à Fresnes. Et d'ailleurs, sur la deuxième cliché que j'ai agrandi, on voit effectivement à quoi ressemble Valentin Feldman. C'est quasiment sa dernière photo, 6 mois avant son décès. Enfin, c'est la dernière photo connue de lui, hein, comme souvent pour les gens qui n'ont pas survécu à la guerre. Les dernières photos sont celles que l'on prend au moment de l'identité judiciaire. Il n'y en a pas d'autres, naturellement. Donc, la photo était équivalente à la première, sauf qu'on le voyait assis sur une chaise. Et là, un cliché agrandi, un détail agrandi pour sous forme de portrait, en quelque sorte. Il est condamné à mort par un tribunal militaire allemand, donc à Paris. Il refuse de signer son recours en grâce, considérant que c'est une fumisterie et que ça n'a aucun intérêt. Et il est fusillé le 27 juillet 1942 au Mont-Valérien. Au moment d'être exécuté, il crie à ses bourreaux « Imbécile, c'est pour vous que je meurs ». J'en arrive à au troisième temps de mon exposé, avec l'idée que normalement tout aurait dû ou aurait pu s'arrêter là, avec la possibilité d'une recherche biographique aboutissant à un livre, début, milieu, fin. Et l'idée dans le sous-titre qui est mentionné derrière moi de cette exploitation, de cet aboutissement logique, effectivement, sur cette quête biographique. Et c'est en tout cas ce dans quoi je me suis engagé à l'issue de la publication du journal de guerre. Or, rien ne s'est véritablement passé comme prévu. Il y a évidemment tout ce qui a pu être collecté, qui a pu être mis en place, ordonné. Mais il y a eu un certain nombre de difficultés. J'ai naturellement fait de mon mieux, mais dans les faits, j'ai alterné le meilleur et le pire. Le meilleur, c'était utiliser à bon escient, mais encore fallait-il définir ce bon escient, les archives dont je pouvais disposer. Et disons qu'il y avait une nécessité absolue d'ordonner la quantité d'informations qui étaient issues d'archives françaises ou étrangères, notamment ukrainiennes, institutionnelles ou privées, et qui naturellement empruntaient à divers types de supports. On pourrait dire tellement de choses là-dessus que volontairement, je n'en dis pas plus. Ça pourrait être éventuellement l'objet de questions, mais je préfère insister sur l'autre défi qui était celui de gagner la course contre la montre de la mémoire vive. Autrement dit, celle des vivants. Ceux qui avaient côtoyé mon sujet d'étude et s'étaient adressés à lui comme je le fais avec vous. Et là, il a fallu effectivement chercher leurs témoignages. Paris perdu avec Jean-Pierre Vernant, l'historien étant mort peu avant le début de ma recherche, en 2003, ou beaucoup plus frustrant encore avec le romancier Marcel Schneider, décédé en 2009 alors que nous avions convenu d'un rendez-vous. Tous ceux qui font de la recherche savent que c'est ce qui arrive, hein. On a des exemples encore plus cruels que le mien. Déception encore avec Claude Lévi-Strauss, qui m'écrivit pour me dire qu'il ne se souvenait de rien, et entre nous c'était bien le seul. Paris gagné avec un Pierre Billard déjà malade, mais qui me raconta des heures durant son Valentin Feldman avec une ferveur inattendue, comme si l'évocation de cet ancien jeune défunt plongeait lui-même dans un bain de jouvence. Idem pour les compagnes de résistance de Feldman, Marie-Thérèse Feinstein, Madeleine Audru ou encore Denise Meunier, aujourd'hui tout décédées, mais qui me procurèrent la sensation étrange d'ouvrir un sas avec un passé lointain que leur évocation rendait soudain présent, définissable et même presque tactile. Pourquoi avaient-ils et elles tous et toutes cette réaction commune, et pourtant qu'ils ne se connaissaient pas? Eh bien, tout simplement parce que ces personnes, si différentes soient-elles, n'avaient auparavant jamais été interrogées sur Valentin Feldman. J'étais premier à le faire. Et là, il y avait l'idée que leurs souvenirs étaient disponibles. Et en somme, ce n'est pas tant moi qui venais puiser dans leurs souvenirs, c'était plutôt ces mêmes souvenirs existants depuis toujours que mon enquête venait en quelque sorte rendre accessible et opérant. Donc cette quête sur la mémoire vive a été quand même quelque chose de particulier, mais qui m'a permis de rassembler des éléments. Le pire, naturellement, ce furent mes erreurs de débutant, et je peux dire que j'en ai commis quand même un certain nombre, même beaucoup. Un peu à la manière de ces enquêteurs défaillants, hein, dont on parlait hier, dont parlait Aurélie Barjonnet. Et je voudrais simplement me limiter à deux d'entre elles, il y en a eu d'autres. La première consistait à faire les questions et les réponses lors d'une interview. Voilà. La leçon fut cuisante, par d'autres mots, à l'écoute de mes premiers enregistrements. Si bien que depuis, et contrairement aux journalistes de la télévision, pensez un instant à Laurent Delahousse par exemple, j'ai appris à me taire en interview, sachant l'importance du silence lorsqu'il s'agit de parler, et mieux encore, de faire parler. Autre erreur de jeunesse, l'envie d'aller voir sur place. Alors, c'est amusant parce qu'on a parlé hier. Il s'agit là d'une expérience impossible, hein, une véritable aporie historiographique qui consiste à s'imaginer voir revivre le passé en contemplant le présent. J'en ai eu la démonstration la plus définitive, même pour ne pas dire la plus caricaturale, en allant exprès à Saint-Quentin en Picardie pour découvrir la maison occupée par les Feldman à la fin des années 30, au 52 rue Pierre Ramu, puisque je voulais la décrire dans mon manuscrit. Donc voilà, c'était le cadre. Et je me suis rendu compte que c'était la seule de toute la voie en question qui avait été détruite et reconstruite dans un style moderne. Donc toutes les autres étaient d'origine, sauf celle-là. Et lorsque je me retrouve devant cette façade sans mémoire, pour reprendre le propos déjà évoqué par le cité de Jérémy Dresse, rien ne se passe. Voilà, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le bide total. Et puis il y a l'obstacle de cet inavouable secret. Tout ce que je viens de mentionner aurait dû concourir à l'écriture de la biographie, mais il y avait autre chose, et je me suis rendu compte que le texte sur lequel j'allais n'était pas cohérent. Il y avait un détail étrange. Valentin Feldman avait divorcé de son épouse au printemps 1941, il en parle dans son journal, pour, disait la légende familiale, ne pas exposer Léon aux rigueurs, donc sa fille Léon, aux rigueurs du statut des Juifs de Vichy. Fort bien, mais pourquoi est-ce que Léon avait passé toute l'occupation dans une quasi-clandestinité en zone sud? Ça, on peut le comprendre, mais surtout, pourquoi vivait-elle chez ses grands-parents dans le Cantal et non pas avec sa mère à Rouen puis à Paris? Et ce furent mes entretiens avec Pierre Billard, des extraits aussi des mémoires de Marcel Schneider, ainsi que de très courts fragments, très brefs, mais qui existent, des correspondances de Simone de Beauvoir, qui m'apportèrent la clé de l'énigme. Et la clé de l'énigme, c'est que le ménage Feldman ne fonctionnait pas. Et cette révélation intime avait de lourdes conséquences sur le vécu que j'entendais restituer. Yann, qui était une femme libre, avait entretenu avant-guerre une liaison épisodique et cependant durable, 2 ans à peu près, avec Sartre. Et en retour, le philosophe lui dédicaça son premier ouvrage, L'Imagination, de 36, et plus significatif, lui légua plus tard le manuscrit original de L'être et le néant, aujourd'hui perdu. Valentin, qui estimait Sartre, connaissait cette liaison, l'acceptait, mais en même temps en souffrait atrocement. Lui ne fut jamais que l'homme d'une seule femme, et jusqu'au bout, ainsi qu'il le mentionne d'ailleurs dans sa dernière lettre à Yann. Et en 41, le divorce avec Yann, justement, ne fut pas une action de sauvetage de leur fille Léon, ou du moins ne se résuma pas uniquement à cela. car Yann était alors en train, à la même époque, de refaire sa vie avec l'un de ses élèves qui deviendrait son second mari, dès avant la fin de l'occupation. Léon Tessandy Feldman ne m'avait jamais confié cet aspect de la vie sentimentale de ses parents, or je perçus immédiatement les implications méthodologiques de ces révélations tardives et inattendues, ayant valeur d'une sorte de palimpseste, sur mon travail. Pour les résumer d'un mot, ce martyr en apparence exemplaire de la résistance n'aurait-il pas en définitive choisi la voie d'un suicide patriotique pour mettre un terme à sa souffrance amoureuse? Et je n'ai pas la réponse à la question. Que les choses soient limpides, je n'ai absolument pas la réponse à la question. J'ai mon intime conviction, qui est oui. Voilà, qui est oui. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une part de cela, mais je n'ai pas la réponse à la question. Donc, toute l'écriture de la biographie découlait désormais de ce questionnement. J'en arrive donc, et ça tombe bien parce que le temps file, à mon dernier développement sur l'impossible conflit des fidélités, vous avez déjà, je pense, deviné lesquels, et son improbable dénouement. J'ai donc informé Léon Tessandy Feldman de mes découvertes, lui reproduisant le chapitre que j'avais rédigé à propos de l'épisode. Et là, ce fut le moment où les ennuis commencèrent vraiment, en quelque sorte. Elle me demanda en effet de censurer mon texte. Et poussa sa requête jusqu'à suggérer. Alors, il y a la censure, mais il y a l'ajout à la censure, puisqu'elle, la censure, c'est ce qu'on retient. Mais elle me propose autre chose, c'est-à-dire qu'elle ajoute. Et elle poussa sa requête jusqu'à suggérer le titre restrictif que je pourrais donner à l'ouvrage projeté, Valentin Feldman, héros de la résistance. À travers cet énoncé décevant, je mesurais pleinement l'ampleur de la censure. Pire, cette appréhension d'un Valentin Feldman résumé à sa stricte expression publique, par-delà le mensonge par omission, m'apparaissait privé de contenu à la mesure d'une coque vide, alors que ce que l'on me demandait de censurer justifiait précisément tout ou partie de son destin. Le choix inverse n'était pas moins douloureux. Il consistait à publier l'intégralité, malgré tout, de mon texte, en choisissant pour cela de briser l'amitié de Léon, qui m'avait, des années durant, ouvert ses portes et donné accès aux archives de son père, les siennes propres. Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas simple. Et c'est ce que j'appelle donc le conflit des deux fidélités, celle de l'historien et celle du proche, en quelque sorte. Conflit qui, est-il besoin de le rappeler, établit les évidentes porosités entre la sphère du chercheur et celle de son sujet. Pris entre ces deux choix impossibles, je décidai de prendre conseil autour de moi. Mais ce ne fut, on pourrait par exemple faire un vote à bulletin secret pour savoir qui parmi vous est d'accord pour que je publie l'intégralité et qui est d'accord parmi vous pour que je me censure. Et ça serait intéressant d'avoir le résultat final sur des petits papiers. Mais en fait, de mon expérience, ce ne fut qu'un pis-aller dans la mesure où la moitié de mes interlocuteurs me suggéra la première issue et l'autre la seconde. Ça a été assez étonnant. J'ai alors pris la seule solution qui s'imposait à moi, mettre mon manuscrit et donc mon enquête en sommeil. En y repensant avec le recul, je me dis que j'attendais sans doute qu'un miracle se produise, un peu comme dans les livres édifiants du temps jadis, vous savez, les livres publiés chez MAM. Ce que j'ignorais alors, c'est que le miracle attendu se produisit, qu'il y en eut même deux pour le prix d'un seul, et que je ne m'attendais ni à l'un ni à l'autre. À l'automne 2012, Léon Tessandy Feldman décéda brutalement d'un double AVC. Et je n'appris d'ailleurs sa disparition que plus d'un mois plus tard. L'autre surprise ne fut pas la moindre, dans la mesure où j'appris que cette fille unique, sans enfant, avait fait de moi le légataire universel des archives de son père. J'étais devenu l'héritier de mon sujet d'étude. Ce faisant, et plus troublant encore, je m'étais greffé artificiellement, sans l'avoir imaginé un seul instant, dans la propre généalogie familiale de Valentin Feldman, à la mesure d'une sorte d'adoption posthume. Et alors que j'aspirais et que j'aspire toujours à la distanciation critique, j'étais en quelque sorte devenu juge et partie. Quelques mots pour conclure. Comme vous l'avez compris, je me suis moins efforcé de raconter ici la vie de Valentin Feldman, encore que je l'ai fait tout à l'heure brièvement, mais plutôt j'ai plutôt tenté de restituer les circonstances qui m'ont conduit à en forger le récit. Et loin d'une linéarité, cette narration a convoqué différentes dimensions, à la fois se sont succédées, se sont superposées en un process assez complexe, où les faits, les acteurs et les notions s'entremêlaient. Et donc, non pas en une simple accumulation de strates géomorphologiques dictées par le passage des temporalités, mais en une polyphonie, alors comme on a évoqué dans plusieurs communications hier, qui est une polyphonie qui peut être tantôt harmonieuse et logique, tantôt discordante et violente, et qui devait enrichir et tout autant complexifier le, le projet initial, et projet initial qui se modifiait dans son déroulement même, en quelque sorte. C'était une expérience assez mouvante. En étant confronté à la difficulté de produire un récit avec les découvertes que j'avais faites au cours de mon enquête, j'ai même abouti à une impasse totale. Mon enquête, au final, n'a pas encore abouti. Seul un coup du sort m'a permis de sortir de cette voie sans issue. Et on me croit sur parole si je dis qu'il m'a fallu du temps pour parvenir à ce fameux raconté quand même qu'évoquait hier donc Dominique Meyer-Bolzinger. Ce fameux raconté quand même qui m'a paru extrêmement personnel. Effectivement, j'en ai ressenti une allusion tout à fait personnelle à ma propre démarche. Au terme de cet exposé, je ne suis absolument pas convaincu de vous avoir raconté l'enquête, mais ce qui est certain, en revanche, c'est que j'ai essayé de vous raconter une enquête, et la nuance est d'importance. Et peut-être même, pour tout vous dire, est-ce là une enquête que j'estime racontable parmi une foule d'autres possibles, voire impossibles ? Et avec le recul, je me dis que ça n'est déjà pas rien, et je vous remercie vivement pour votre écoute.